sur RFI. La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour et bienvenue dans cette série de trois danses des mots en Corse. C'est en effet la suite de nos émissions consacrées aux langues régionales, en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, qui se rend dans l'île de Beauté. L'île de Beauté, un cliché certainement, oui, mais un cliché mérité. On s'en rend compte en quelques secondes quand on arrive là-bas. Donc, premier rendez-vous consacré à un état des lieux général et à un rapide survol de l'histoire de la langue. L'existence de cette langue est très liée à une histoire politique mouvementée depuis longtemps. Les enjeux linguistiques sont symboliquement forts. Toutefois, c'est davantage à la réalité de la langue que nous nous sommes attachés. Il est certain que parmi toutes les langues que nous avons scrutées et écoutées, c'est bien celle qu'on entend le plus. Dans la vie quotidienne, derrière les murs clos des maisons certainement, mais aussi dans les rues, les marchés, les magasins, les cafés, chez les joueurs de boule ou les joueurs de scopa. Et pourtant, la réalité semble plus inquiétante. Comme les autres langues de France, sa vitalité s'est amoindrie, son avenir inquiète. Le Corse, aujourd'hui, n'est plus du tout ce qu'il était il y a un peu plus d'un siècle. Lucie Bouteloup et moi-même, nous nous sommes tout d'abord rendus à la collectivité territoriale de Corse. C'est à Ajaccio, évidemment c'est cours Napoléon. On y a été reçus de façon fort hospitalière par Bernard Ferrari, chargé de mission pour la langue corse. Et je vais directement poser la question, la présence de cette langue, elle n'a rien à voir avec ce qu'elle était en 1900.
Au début du siècle, du 20e siècle, hein, du siècle dernier, et avant la Première Guerre mondiale, la langue elle était parlée par la quasi-totalité. 90% de l'île. Il y a eu la guerre, beaucoup d'hommes sont partis, ça a été une hécatombe pour la Corse, et déjà on s'est retrouvé, on va dire, entre les deux premières guerres, déjà avec une perte des locuteurs du fait, justement, de l'absence et des pères, on va dire, à un moment donné, de l'homme. Donc, c'est-à-dire une relation comme ça qui a fait déjà une première coupure dans la langue. Il y a eu une deuxième, après il y a eu la deuxième guerre qui elle aussi a rendu la Corse exsangue et l'a appauvrie aussi, ce qui fait que au sortir, on va dire, dans les années 50, la langue corse, c'était une langue, en fait, qui était devenue une langue qui était vraiment reléguée à l'agro-pastoralisme, qui n'était pas la langue de la réussite. La langue de la réussite, c'était le français. C'était la langue des pays vainqueurs de la guerre. Voilà. Donc, à partir de là, il y a eu une coupure nette. Ce n'était plus la langue de l'accessite sociale. Voilà. Donc, ça ne l'a jamais été. Les représentations ont été toujours très négatives. Mais la pratique, par contre, est très... Très, voilà, c'était la quasi-totalité de l'île. Depuis, on va dire...
Donc, ce qui veut dire qu'il y a une diglossie qui s'installait. C'est-à-dire voilà. Une structure hiérarchique avec une langue valorisée et une langue plus ou moins minorisée, relayée à l'intime et au quotidien.
Exactement, c'est ça. Il y a un phénomène de diglossie qui s'est installé, tout à fait. Après, vous savez très bien que ce phénomène diglossie, voilà, sans vouloir rentrer dans les détails, il est renforcé par des appareils, des dispositifs juridiques, ou voilà. Donc c'est ce qui fait qu'on en est dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais après ce qui s'est passé, on va dire, dans les années 70, c'est que il y a eu un mouvement qui s'appelle le mouvement culturel, qui s'appelle le réactuiste, qui est un mouvement de réappropriation. Intellectuel, culturel. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la langue est très présente par le chant, parce que le chant ça a été le vecteur, c'est un peu quelque part c'est le chant qui a maintenu la langue en vie, qui l'a amené jusqu'à nous, on va dire jusqu'à nous, ma génération et les générations d'aujourd'hui aussi, hein. Bien qu'il y ait l'école, bien que je n'ai pas le reste, mais je veux dire le chant plus que tout le reste, quoi. Vraiment, c'est lié. Et donc, après donc les années 70, il y a eu un mouvement politique, un mouvement culturel, un mouvement sociétal, qui le réacquiste, donc, qui a engagé cette réappropriation, cette reconquête un peu de la langue, de la rendre normale, on va dire, à nouveau. Voilà. La langue corse, c'est l'ADN hein, de la Corse. Hein, il faut pas... C'est son île. Enfin, l'île, c'est... Voilà, la terre parle d'elle-même, mais je veux dire, la langue, c'est son ADN. Hein.
Comment cette langue, depuis 2-3 générations, mettons depuis cette réappropriation des années 70, comment elle se transmet ? Elle se transmet plus exactement mère-enfant, parent-enfant, et pourtant, il y a une espèce de bain linguistique social qui environne les jeunes générations, qui fait que la langue n'est pas totalement perdue.
Alors, oui. En effet, par le milieu. Alors, il y a plusieurs aspects, un peu des niches. Il y a la langue de connivence. Donc, la langue de connivance qui fait que on se reconnaît, on appartient à une certaine communauté. Ce qu'il faut, c'est que la langue elle soit parlée à la maison, plus que partout ailleurs. Quoi. C'est ça à quoi il faut arriver. Donc, par exemple, ces enfants-là, quand ils arrivent au collège, ils ont une période pendant laquelle ils ne veulent plus parler le corse. Parce que, ils ont un peu l'impression d'être des raretés, quelque chose d'un peu d'exceptionnel. Mais par contre, on remarque que, entre eux, quand ils veulent se dire quelque chose d'intime, ils emploient cette langue-là, langue de connivence. Voilà. Donc, après, le milieu, comme vous dites, oui, on essaye au maximum, et ça, c'est vraiment, ça relève de la politique, on va dire, incitative, vraiment, de la dynamique de la collectivité en la matière. Hein. Oui, on essaye dans les médias, dans les productions audiovisuelles, dans les signalétiques, par exemple, les bureaux de poste. Il y a quelques années, on a fait une convention avec les bureaux de poste pour qu'on ait une signalétique à minima, boîte aux lettres, voilà. Et lettres, boîte aux lettres, bonjour, bureau de poste, voilà.
Donc, alors dites-nous comment on dit une boîte aux lettres et un bureau de poste en Corse.
Une boîte aux lettres, on la scade ou la dalette, et un bureau, on scanne une postale. Voilà. On peut utiliser, nous on a une parole qui dit franchisa, à un moment donné, c'est-à-dire quand on n'a pas un mot, on le prend en français et on fait une certaine adaptation en Corse.
C'est courant, c'est facile que justement la langue, le lexique soit. Qu'on réinjecte des nouveaux mots en les empruntant et en les corsifiant,
déjà,
quoi.
Déjà, je pense que c'est sain, parce que c'est vraiment le signe d'une vitalité de la langue. C'est pas si fréquent que ça, je vous en parle, mais c'est pas si fréquent que ça. C'est pas forcément un réflexe. Ceci dit, la langue, moi, comme m'avait dit quelqu'un, il faut la triturer.
Impression très subjective qu'on peut avoir en parcourant l'île, la présence du Corse n'est pas du tout la même dans les villes et, comme on dit, au village. Seulement, villes et villages d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient il y a quelques décennies, et c'est à la lumière de ces changements que s'explique ce paysage linguistique. En tout cas, c'est ce que nous a dit Jean-Charles Adami, qui est professeur de Corse dans un lycée de Bastia et très bon observateur de la situation.
Ce qui est certain déjà, c'est que la Corse, elle a changé en profondeur. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société rurale et villageoise, avec tout ce que ça sous-entend comme réalité de culture de vie, hein, à une société urbaine et périurbaine en grande majorité. Donc il y a, de mon point de vue en tout cas, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes inquiétants, que certains sociologues traitent. Jean-Pierre Le Goff, par exemple, dans un livre qui a été intitulé « La fin du village », avait travaillé sur Cadenet, en Provence, où il avait expliqué tous les phénomènes de déstructuration anthropologique qui étaient dus au nouveau mode d'organisation spatiale, en fait. Hein. Bon, je vais très vite. Hein. Lorsqu'il n'y a plus de place de village, il n'y a plus non plus de lieu d'échange naturel, je dirais. Hein. Et les gens doivent trouver d'autres modes d'échange que celui qui s'imposait naturellement jusqu'à présent. Ça pose quand même la question de l'apprentissage du corse et des savoir-faire de façon générale lorsqu'ils ont une dimension populaire. Parce que si le corse n'a pas, puisqu'il n'a pas encore ce statut de langue officielle, etc., bon, il ne s'est pas posé véritablement comme une évidence en Corse même, son apprentissage est toujours fait. Pour l'essentiel dans le rapport d'oralité, et encore aujourd'hui ça compte pour beaucoup, même si l'école prend dans une certaine mesure le relais. Mais cette oralité, elle est menacée parce que le lien entre les générations, entre les personnes, justement, est rompu par le type d'organisation sociétale que l'on se donne aujourd'hui. Et donc il y a toutes sortes de savoirs dans lesquels on doit inclure aussi les savoirs linguistiques et les compétences linguistiques qui sont menacées de ce fait-là. Et moi, je doute que l'école puisse à elle seule prendre en charge toutes les dimensions de l'apprentissage. Alors pour vous répondre, oui, dans les villages évidemment on parle corse davantage, mais quel est le nombre de personnes qui restent dans les villages ? Très très peu. Nous avons des populations en extrême faiblesse. Souvent même, ce sont des personnes... Dans mon village, par exemple, il reste à peu près 35 personnes.
Il est où, votre village ?
En Castanic. Ce sont des personnes qui sont pour la plupart toutes âgées, donc la pyramide des âges est inversée. Elles parlent toutes le corse, mais on comprend bien que là, les perspectives sont quand même des perspectives assez réduites. Où sont passés ces gens de Pianel ou de mon village qui ne sont plus chez eux ? Eh bien, ils sont dans la périurbanité bastiaise ou ajaxienne, où évidemment, la pratique du corse est moindre et elle n'est pas aussi facile qu'elle ne l'est sur la place du village à Pianil.
Pour comprendre tout cela, un coup d'œil vers le passé. On le sait, la Corse n'est française que depuis 2 siècles et demi. Comment l'est-elle devenue ? On parle souvent de l'achat de la Corse à la République de Gênes par Choiseul, ministre de Louis XV. J'ai voulu savoir ce qu'en pensait Domenico Anton Geronimi, écrivain, poète corse, intellectuel très engagé dans l'histoire de sa langue. Alors, la Corse devient française en 1769, geste commercial ou conquête ?
Il y avait en Corse des révolutions depuis 1729. Hein ? Et Gênes ne pouvait plus maîtriser la Corse. Et elle a fait appel, il y a eu appel à des puissances étrangères pour rétablir l'ordre. Et même lorsque Pascal Paoli, c'est 1755 jusqu'à 1769, la défaite c'est 68.
Alors dites-nous un peu qui est ce personnage quand même très important de l'histoire corse. En deux mots.
Pascal Paoli était le fils d'un des chefs des révolutions corses qui s'appelait Giaginto. Il était originaire de Morrosaglia et son père s'était donc exilé, était parti à Naples où Pascal donc était entré dans l'armée, dans les forces armées, et puis était, je ne sais plus quel était son grade, et il est revenu en Corse en 1755 à l'appel des gens qui étaient encore en révolution, hein. Et Gênes, après avoir fait appel à d'autres puissances, a fait appel à la France, à Louis XV, pour rétablir l'ordre en Corse. Et le schéma était le suivant. La campagne de rétablissement de l'ordre coûte un certain prix. Gênes va payer. Et ensuite, comme elle n'a pas payé, qu'elle ne pouvait plus payer, elle a cédé ses droits, ses prétendus droits, parce que juridiquement, c'est encore discutable, mais elle avait ses prétendus droits au roi de France qui a dit « Bon, ben maintenant, la Corse est à moi ». Et comme les Corses étaient en révolte, y compris contre les Français, il a fallu une conquête militaire, et en particulier la bataille de Ponteno, etc. Bon, on tombe là dans les banalités de l'histoire de la Corse.
Mais donc, l'identité de la langue corse s'est assez souvent constituée contre la présence française.
Contre la présence française, c'était pas tout à fait cela, mais c'est plutôt dans l'affirmation de sa personnalité et de son individualité, aujourd'hui on dit sa spécificité.
Alors, j'aimerais bien, Domenico Anton Geronimi, que vous me parliez un petit peu des traces écrites du Corse. Quelles sont les premières, c'est-à-dire à quel moment on peut dire, mais tel document a été écrit en Corse, et non pas en italien, enfin.
Oui, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, avant Gênes, c'était Pise, que Gênes pratiquait le toscan comme langue d'échange de culture, que Pise utilisait le toscan. La langue de la promotion sociale pour les Corses était l'italien, pour simplifier, parce que l'italien n'existait pas, c'était le toscan en règle générale, grâce à...
Le toscan était quand même de l'italien, non pas standard, ça ne voudrait rien dire, mais central en tout cas.
Central et surtout grâce au prestige des trois grands auteurs, Dante, Boccaccio et Petrarca. Hein. Ce sont eux qui ont fait que la langue qu'ils ont pratiquée est devenue l'italien standard. Hein, pour l'avoir. Alors, donc, la langue de la promotion sociale pour les Corses était le Toscan, qui voulait faire des études universitaires allait en Italie, qui voulait faire des études de médecine allait en Italie, pratiquait le Toscan. Et les écrits ont longtemps, même les textes officiels, ont longtemps été écrits en italien, même après la conquête française. Par exemple, l'état civil, des actes notariés ont continué d'être écrits en italien. Mais, est venu ensuite le français, qui est devenu, lui, alors, à son tour, la langue de la promotion sociale. Et alors, la première trace écrite en langue corse date du début du 19e. Mmh. C'est Salvatore Viale, qui était un écrivain bastillais, qui a écrit un texte devenu célèbre, mais en italien, La Dionomachia, qui était une sorte de tragicomédie, même pas tragicomédie, mais de plaisanterie d'une querelle entre deux villages. Et Dionomachia signifiant, paraît-il, parce que je ne connais pas le grec, guerre pour un âne. En effet, le prétexte de la guerre entre les deux villages était un âne. Et dans ce texte-là, écrit en italien, il y a ce que l'on appelle le Userina di Scappino, c'est-à-dire qu'il a donné un peu, on ne sait pas très bien quelle était son intention, si c'était par dérision ou comme une sorte de prouesse, il a écrit ce que l'on peut considérer comme le premier texte écrit en langue corse et qui a été imprimé en 1817. Et donc c'est, il y a là 70 ou 80 vers, écrit dans ce que, avec malgré tout des marques de toscanisme, mais malgré tout, qui a été écrit en langue corse. C'est le texte le plus ancien. Il y en a eu un autre, mais celui-là était repris d'une tradition orale et postérieure à 1817.
Et j'imagine qu'auparavant, quand on écrivait, en fait, la forme écrite, c'est-à-dire d'une certaine façon la forme haute de la langue, correspondait à une forme italienne, et les spécificités corses ne ressortaient qu'à l'oral.
Ne ressortaient qu'à l'oral, d'une part, avec cependant, on peut le noter, dans les registres notariaux, dans ce qu'on appelle i ceppi, dans les registres notariaux, on trouve beaucoup de corsicisme. Alors, ce qu'on ne sait pas, mais on peut le supposer, c'est que c'était par une maîtrise insuffisante du toscan. Ou bien alors, parfois, par souci d'authenticité. Mais difficile de démêler les deux motivations.
À part ça, on parle du corse au singulier, mais bien sûr, il y a des variations selon qu'on se trouve au nord, au sud de l'île. Oui. Est-ce qu'il y a des tendances importantes ?
On peut distinguer, me semble-t-il, hein, c'est toujours discutable, bien entendu, mais enfin, trois grandes zones. La première est celle qui concerne tout le nord de l'île, avec une petite particularité pour le Cap Corse, mais tout le nord de l'île et, disons, le centre-est. Les parlées du sud, disons, pour simplifier, le Sartenais, pour simplifier. Et puis, les deux zones intermédiaires, la zone intermédiaire sur la côte occidentale, qui est la région de Vico, celle dont je suis originaire, et puis la zone intermédiaire sur la côte orientale, côté est, qui est le Fiumorbo. Ce sont les deux zones, j'allais dire, qui font la synthèse. En réalité, ce n'est pas une réalité de synthèse, c'est le confluent de deux parlées, de deux tendances, pas deux parlées, mais deux tendances différentes.
Et cette cartographie est encore valable aujourd'hui ?
Elle peut l'être, ouais. Elle peut l'être. On dira que, pour simplifier, on a un X avec, pour point de croisement, le col de Vizzavone, et puis les deux branches du X du côté de Vico, et les deux autres branches du X à l'opposé, du côté du Fiumorbo, avec au nord et au sud.
Et vous, quand vous entendez quelqu'un qui vient de Bastia, d'Ajaccio, de Vico, de Corte, facilement, vous repérez, oui, grâce à sa prononciation, pour savoir de quelle origine il est.
Tout à fait, tout à fait. C'est tout à fait remarquable, dans le sens de « à remarquer
». là, la mia speranza siete voi, la mia barchetta che cammina ancora baldanza. Quella che non temme guente né tempesti di lumari, addormenta di parapena, fate voi la ninna ninna.
On le disait en début d'émission, les problématiques linguistiques corses sont très politisées. Et on sait bien que certains demandent la co-officialité du corse avec le français. Et sans entrer dans l'intimité des polémiques, on peut se demander ce que ça changerait de façon tout à fait concrète. Et j'ai posé la question à Bernard Ferrari.
Et la passion, il y a du rêve, c'est pas uniquement juridique, on va dire, la co-officialité. Alors, tout d'abord, c'est pas un problème, la co-officialité, vous dites le problème, c'est pas un problème, c'est peut-être une embûche institutionnelle, mais c'est pas un problème. Déjà, c'est un projet, c'est un défi, la co-officialité. La co-officialité, c'est permettre à qui le souhaite, quelle que soit la situation, de pouvoir parler le corse. C'est ne pas obliger quelqu'un à le parler, c'est juste dire, voilà, moi, si demain j'ai envie d'aller n'importe où, n'importe quel endroit, je dois pouvoir parler le corse. Voilà, c'est ça la co-officialité. Demain, une langue qui est co-officielle, donc déjà la co-officialité aussi, à un moment donné, vous me dites, bon, vous, avec votre regard de l'extérieur, vous me dites, elle est quand même parlée, il y a quand même une vitalité. Oui, quand vous regardez la situation d'autres langues, d'autres langues dites régionales, entre guillemets, oui, mais demain, on peut se retrouver dans la situation de cette langue-là. Et uniquement, la co-officialité, c'est juste un dispositif de protection, c'est d'assurer des droits linguistiques. Une protection, c'est-à-dire à un moment donné, c'est juste une protection pour être sûr qu'elle ne se perde pas. Parce que cette vitalité, elle est quand même fragile. Parce que cette vitalité, elle est soumise à la Corse, voilà, c'est une île de 300 000 habitants. C'est pas dit que demain, comme ça, d'un claquement de doigts, la langue puisse disparaître aussi, vous comprenez ?
Est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples, par exemple, de ce qui serait possible s'il y avait cette co-officialité du français et du corse et qui n'est pas possible actuellement ? Qu'est-ce que ça changerait ?
Par exemple, tout simplement, la possibilité de signaler une offre d'emploi. Dans une offre d'emploi, par exemple, la mention « langue corse souhaitée », parce que la langue corse est une compétence qui est professionnalisante. Aujourd'hui, par exemple, moi, si j'ai une auxiliaire de puériculture qui chercherait du boulot, si elle a fait une formation en langue corse, elle aura plus de chances de trouver. Expliquez-moi pourquoi est-ce qu'on pourrait mettre dans une langue. Alors, je sais que le mandarin, c'est une langue officielle, mais on peut demander dans une offre d'emploi, je ne sais pas moi, qu'un cuisinier dans un restaurant vietnamien parle le vietnamien et on ne pourrait pas le faire par rapport au corse. Donc, bon.
Parce qu'on ne peut pas le faire par rapport au corse actuellement ?
Ah non, on ne peut pas le faire, non. Ah non, non, non. Et puis c'est
mais peut-on le faire par rapport au vietnamien ?
Ah oui, oui, vous pouvez le faire, oui. Oui. Et puis je vous le dis, c'est sévèrement, je pouvais même vous donner l'article de loi, c'est sévèrement réprimé par la loi, je vous le dis.
Voilà donc ce qu'en pense Bernard Ferrari. J'ai posé la même question à Dominique Anton Geronimi.
D'une part, la co-officialité est nécessaire, mais ne saurait être suffisante. Impossible. Et pour ma part, j'ajouterai, alors maintenant un point de vue plus personnel, il reste peu de locuteurs corses connaissant bien leur langue. Même si on sait bien qu'une langue reflète une société, que la société d'aujourd'hui n'est pas la société d'il y a un siècle ou même 50 ans. Bien, ceci dit, cependant, la langue qui est aujourd'hui pratiquée par la plupart des gens, y compris ceux d'ailleurs qui réclament la co-officialité, un certain nombre, non pas tous, fort heureusement, est une langue qui est pensée en français. Parce que leur mode de pensée est un mode français, inspiré par, conduit par la langue française, et traduit, d'ailleurs maladroitement, la plupart du temps, dans ce qu'ils croient être la langue corse. Et par conséquent, j'aurais tendance à dire que ce que je redoute, c'est que la co-officialité ne soit l'acte de décès de la langue corse. Mais, de toute façon, elle me paraît tout à fait indispensable, condition nécessaire, mais non suffisante.
Mais, d'un point de vue purement objectif, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui changerait, justement, si la langue corse accédait à cette officialité, si elle devenait langue officielle? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en Corse qui est impossible aujourd'hui?
Ben, je pourrais aller à la poste et demander un document ou remettre un document. Ou je pourrais aller à la préfecture et remettre un document. Je pourrais, si j'étais maire d'une commune, rédiger le procès-verbal du conseil municipal en langue corse, ce qui s'est produit quelques fois, en tout cas une ou deux fois, à ma connaissance, et qui a été refusé par la préfecture. Alors que ça deviendrait possible. Reste à savoir quelle serait la qualité de la langue dans laquelle ce procès verbal ou ces actes seraient rédigés, manifestés.
Voilà ce qu'en pense Dominique Anton Geronimi, mais de toute façon, la co-officialité des langues corses et françaises, pour l'instant, elle est refusée par l'exécutif français. Merci encore à tous ceux qu'on a entendus aujourd'hui, Bernard Ferrard, Jean-Charles Adam, Dominique Anton Geronimi, qui étaient nos interlocuteurs. Demain, nous nous intéresserons avec un documentaire de Lucie Bouteloup au problème de transmission et d'enseignement dans cette série de 3 émissions consacrées à la vie de la langue corse, réalisées en partenariat avec la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, dans La Danse des Mots, émission proposée par le réseau Canopée et par RFI. Véronique Durand, Marjorie Bertin, Lucie Bouteloup, Yvan Amar.
J'ai vu l'Orient béni par tous les romans, mais l'île enchantée, reine de Méditerranée, celle où le soleil a des reflets toujours vermeils, c'est mon pays, éternel paradis. Au Corsica bella, île de ou de rêver sur tes flots argentés, tes roches rouges, ton ciel si doux, ton ciel si beau qui rend le monde entier jaloux. Au Corsica bella, te revoir un jour, c'est mon plus beau rêve d'amour. Au Corsica, j'ai laissé là-bas tout près de la mer qui s'ébat, au milieu des fleurs, une parcelle de mon cœur. Vienne le bateau qui me ramènera bientôt vers mes amours pour y finir mes jours. Au Corsica bella, île de beauté, qu'il est doux de rêver sur tes flots argentés, tes roches rouges, ton ciel si doux, ce ciel si beau qui rend le monde entier jaloux. Au Corsica bella, plus beau rêve d'amour au Corsica.